y a un œil. Un œil rond. Véritablement ailleurs. Et sans doute, comme moi, êtes-vous frappé par deux de ces yeux à l'expression indéfinissable, mais qui me semble résolument provocatrice. Je parle de l'œil nommé Amber.
Radio Super, la première radio d'Amber.
Donc en 89, j'avais 7 ans, donc on est parti et c'est en arrivant à la capitale que j'ai découvert un petit peu la lecture de la bande dessinée. C'est comme ça que je me suis retrouvé de fil en aiguille à copier, c'est-à-dire pour apprendre à dessiner, il faut juste reprendre ce qu'on aime bien lire. Donc je me suis mis à copier les Tintins, les Astérix, Obélix, vous connaissez non, ces personnages, vous avez déjà vu, j'imagine. Et aussi plein d'autres personnages. À partir de la case de 4e, je me suis mis à créer une petite histoire d'un super-héros africain. Parce que en 4e, je commençais à prendre conscience au niveau de l'environnement politique au Tchad que ce n'était pas tellement très très juste. Parce que déjà mes 8 ans, c'est-à-dire en 90, quand le pouvoir d'Issérabé avait été chassé, bon, c'est-à-dire il y a eu un coup d'État qui a fait que l'ancien président, qui a été donc condamné pour crime contre l'humanité, a été donc renversé par son bras droit Idriss Déby, qui lui aussi a été assassiné en 2021. Là. Et son fils a pris le relais, donc, qui est encore au pouvoir. Donc pour restituer cette histoire, c'est que j'ai vécu en fait beaucoup d'angoisse, c'est-à-dire de voir mon père partir comme ça au travail et de ne pas rentrer. Parce qu'à l'époque, les intellectuels sudistes étaient portés disparus parce que c'était le Nord et le Sud. Le président qui était au pouvoir était nordiste, donc il faisait disparaître comme ça les intellectuels du Sud. Et donc moi, j'avais énormément peur de ne pas voir mon père rentrer. Et chaque jour, quand mon père partait au travail, le soir à 17h, je venais guetter le retour de mon père parce qu'il avait une moto Yamaha, là, comme ça, qui avait un son très particulier. Dès qu'une moto Yamaha passait, je courais à l'extérieur pour voir si c'était mon père qui était en train de rentrer, parce que ça m'avait vraiment marqué. Et arrivé en classe de 4e, donc j'ai commencé à faire cette histoire de super-héros, d'un jeune qui avait pour seul objectif donc de casser la gueule des dictateurs. Voilà comment est arrivée un petit peu l'envie de faire des histoires en bande dessinée. Ce que je ne pouvais pas faire dans la vraie vie, je le faisais sur le papier, mais j'ai commencé à faire ça de manière vraiment très amateur. Hein. J'avais pas de règles, c'est-à-dire la composition, comment on raconte une histoire par image, en faisant donc recours au texte aussi, donc qu'est la bande dessinée, qui est un art séquentiel. La composition des images, des cases qui se succèdent les unes après les autres, comment on en fait pour raconter une histoire. Ensuite, comme il n'y avait pas de maison d'édition, vous imaginez, j'étais frustré, moi j'avais envie de dessiner, donc je me suis retrouvé face à l'impossibilité de faire de la bande dessinée. Les journaux étaient en demande, et il y avait donc Le Miroir et Rafigui qui est là. C'est le premier journal dans lequel j'ai fait mes premiers pas en dessin de presse. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ça en 2003. En 2004, je quitte le Tchad pour arriver ici en France, où j'ai continué à faire du dessin de presse et à faire aussi de la bande dessinée. Parce que avec Le Miroir, j'ai commencé à avoir des soucis au Tchad par rapport à certains dessins que j'ai pu produire au Tchad. Et j'ai eu des agressions, des menaces qui m'ont fait décider de partir du Tchad donc, en 2004. Et depuis, je suis arrivé, ça fait plus de 2004, ça fait plus de 20 ans que je suis là.
Les menaces que vous avez subies, c'était les crises, c'était comment?
Ah oui, les menaces au Tchad, imaginez, c'est-à-dire que des milices, des paramilitaires qui viennent, qui débarquent avec des armes, Kalachnikov, et qui vous tabassent, qui vous giflent, et qui vous humilie, en fait, les gifles, tout ça, et par rapport au fait que vous avez fait un dessin qui ne plaît pas à un certain clan.
Oui. Est-ce qu'on se sent plus en sécurité en France qu'au Tchad?
Ça, c'est une très très bonne question, parce que je pensais, j'ai demandé la protection à la France. Bon, j'étais peut-être très naïf aussi, hein, quand je suis arrivé en France en 2004, j'avais 22 ans. Il y avait un peu de naïveté, parce que j'ai dû faire un parcours quand même, en me disant que j'arrive à France Terre d'Asile. J'arrive aussi au niveau de l'OFPRA, qui s'occupe donc de la demande des demandeurs d'asile pour leur accorder le statut de réfugié ou pas. Je pensais, dans ma naïveté, que l'OFPRA, quand j'arrivais, je fonctionne beaucoup à la vue, à ce que je vois. Un très grand bâtiment comme ça, énormissime. En me disant que dans ces lieux-là, les gens sont sûrement au courant de mes problèmes. J'ai été en confiance totale au Tchad. Et ensuite, après, j'ai rencontré l'équipe de Charlie Hebdo quand j'étais à la maison des journalistes. J'avais fait une exposition, ils sont venus me soutenir. Et j'ai même été, pendant un mois, accueilli dans leurs locaux pendant longtemps. Je suis resté presque 2-3 mois avec l'équipe de Charlie Hebdo pour travailler avec eux. Ça a été très difficile parce que l'humour, c'est un esprit très particulier. Même si au Tchad, je dessinais dans le miroir, où je me disais que c'était de la satire politique. Il y a une vraie culture, en fait, du dessin de presse qui n'est pas la même que ce que Charlie Hebdo pratique. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à proposer des dessins sur l'actualité, avec les calembours à la française, tout ça, parce que c'est très, très, très typique, le style Charlie Hebdo. Donc, et aussi le fait de me retrouver avec des cabus, des gens comme Cabu, des gens comme Volensky, des gens comme Charb que j'adulais à l'époque, et ça m'avait un peu écrasé, ça m'avait un peu intimidé, on va dire, et je n'ai pas pu vraiment, à chaque fois que je faisais un dessin, je n'arrivais pas à l'afficher, à l'accrocher en fait au mur de la rédaction, parce que c'était comme ça qu'ils faisaient leur une. Il y avait un grand mur comme ça, où sur en fait les numéros qui devraient paraître dans la semaine, ils proposaient des dessins. Tout le monde proposait des dessins qui collaient en fait sur le mur, et ainsi de suite. Donc moi, je n'ai pas réussi à faire ça, parce que j'avais trop de pression, et au final, en 2015, j'apprends que ces gens avec qui j'ai partagé vraiment tous ces moments, qui m'ont vraiment soutenu bout en bout dans mon parcours de dessinateur de presse ici en France, ça m'a vraiment bouleversé. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je suis parti du Tchad en me disant que des gens me donnaient des coups de crosse, machin, m'agressaient dans les rues et tout ça. Mais ici, on a pu quand même, à bout portant, tuer des dessinateurs de presse. Des gens qui vont juste faire un dessin sur un sujet d'actualité, même si des fois c'est très satirique, même si des fois ça peut... Est-ce que c'est une raison d'aller, de mettre une arme et de pointer une arme sur ces personnes donc oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversé. Oui.
Vous ne pensez pas que pour Charlie Hebdo, on est plus dans la haine et la violence que la satire? Parce qu'il y a quand même eu des actes qu'ils ont fait qui étaient quand même très graves. Et certaines images, certains textes, c'était quand même très percutant pour certaines personnes.
Qu'est-ce que vous prenez comme haine par rapport à un dessin? Qu'est-ce qui peut représenter la haine?
J'ai un peu regardé par rapport à leur caricature, par exemple.
Oui.
quand on voit bah, le grand truc qui a fait l'attentat, mais pas que, j'ai vu beaucoup d'images, j'ai plus trop dans la tête, mm-hmm. bah, je pense que ça peut vraiment faire du mal à beaucoup de personnes, des milliers, voire des millions de personnes.
D'accord. Mais en fait, là aussi, c'est pourquoi en fait, les malentendus, c'est que le dessin n'a pas été... c'est la lecture, c'est aussi une culture, en fait. Hein. Je dis, même moi, par rapport au Tchad, je disais que pour proposer un dessin à la rédaction de Charlie Hebdo, ça a été très compliqué parce que il y avait des endroits sur lesquels j'arrivais pas du tout à suivre parce que c'est un esprit. Et donc, il y a une vraie culture et un contexte dans lequel il faut que quand on produit un dessin comme des dessins dans Charlie Hebdo, il y a un lectorat qui est habitué, qui a des codes de lecture pour ça. Or, il se trouve que ces dessins vont être extraits de leur contexte, c'est-à-dire on va prendre seulement, c'est-à-dire un dessin qui est produit dans un journal, c'est des articles qui vont aller aussi en profondeur pour expliquer les situations et qui font partie en fait d'un tout. On va prendre un seul dessin, on les sort de son contexte et on le met sur Internet et qui circule. La première des choses qu'on voit, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une première lecture qui est donc le premier niveau. C'est-à-dire, on a vu, alors c'est dur d'être aimé par des cons. Et donc, qui est con ici? Les musulmans. Vous voyez? Donc, la première lecture qui est faite, c'est une lecture qui est fausse parce que ce que le dessin indique, c'est plutôt le contraire, c'est prendre le contre-pied des intégristes. C'est-à-dire que là, c'est un dessin qui va même défendre l'islam qui est beaucoup plus un islam plutôt de, on va dire, de tolérance en fait. Ceux qui sont dans la tolérance, qui peuvent accepter les autres, vous voyez, dans leur diversité. Et donc, Mohamed se cache le visage en disant c'est dur d'être aimé par des cons. Donc, il rejette les intégristes qui sont soi-disant, qui veulent faire de lui un messager ou un prophète ou voilà. Donc il rejette ce monde là donc ça parle de ça. Donc il faut bien analyser le dessin, mais le problème c'est que ça a été instrumentalisé, donc réutilisé pour dire que non, c'est tous les musulmans qui sont pris dans ces sacs de dire que c'est dur d'être aimé par des cons. Or, c'est pas ce que le dessin veut exprimer. Voyez? Donc, la lecture d'un dessin de presse, c'est une culture à avoir. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous n'avez jamais l'habitude de lire, par exemple, je ne sais pas quoi, un livre de manga, on vous prend... un livre de manga, on vous met entre les mains, vous allez commencer par où? Au centre, à gauche, à droite. Vous lisez comment dans les cases, les bulles, comment vous les lisez, si vous n'avez pas les codes. Vous voyez? Donc il faut avoir les codes de lecture et comprendre aussi les enjeux, comment un dessin se fait. Donc vraiment, c'est une culture à mettre en place. Donc ça s'apprend aussi, hein, ça s'apprend. Et chaque dessinateur va avoir aussi une sorte de style, de manière de faire les choses. Donc ça aussi, c'est des choses à connaître. Donc c'est toute une culture en fait, simplement qu'il faut en fait cultiver. Mais alors ma langue maternelle, c'est le mongol. C'est la langue de mon père. Même si on dit c'est ma langue maternelle, c'est la langue de mon père. Et ma mère est dai. Et d'ailleurs, donc c'est deux langues complètement différentes. Ouais. Oui.
Est-ce que vous avez appris le français à l'arrivée en France ou vous savez déjà parler français?
Oui, j'ai fait mon parcours à l'école au Tchad en français. Hein. Au Tchad, on parle le français et l'arabe. On peut faire le choix d'avoir un cursus arabophone ou francophone. Et chez moi, mon père a fait ses études en français, donc naturellement, je l'ai fait aussi en français. Oui.
Vous gagnez bien votre vie avec vos dessins?
Ah, ça c'est une très bonne question. Si je gagne bien ma vie, si je voulais bien gagner ma vie, je pense que j'irais jouer au football plutôt. La bande dessinée, pendant longtemps, j'ai dû travailler à côté. Okay. Pendant longtemps. Aujourd'hui, depuis 2012, je ne fais que ça. Aujourd'hui, on va dire que je suis indépendant et depuis 2015, j'ai le statut d'artiste auteur, donc qui me permet d'avoir des activités un peu plus élargies. Je peux faire des commandes, je peux faire des ateliers, je peux faire aussi des expositions, hein, des résidences, et tout ça rentre, c'est tout ça qui fait que qui va rentrer dans les moyens en fait de subsistance, et aussi effectivement tout ce qui est comme publication, effectivement, que ce soit en dessin de presse ou en bande dessinée. Les livres, c'est très difficile, le droit d'auteur, c'est très très difficile d'en vivre, parce que il faut peut-être être ZEP pour pouvoir vivre que de la bande dessinée, et c'est très peu en fait dans le milieu, hein, on est plus de 200 et quelques, 1000 auteurs de bande dessinée, il y en a très 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 peu qui vivent uniquement de leur métier.
Un dessin, il se vend à peu près combien d'euros?
Pour une planche de bande dessinée, 400 en vendant tous les droits, par exemple, pour une planche de bande dessinée, 400 euros, c'est possible pour une commande. Mais en édition, c'est pas la planche, on ne compte pas en planche, on compte en contrat d'édition avec l'avance sur droit. Donc ça, c'est une négociation à faire avec son éditeur. Et il faut être en capacité de bien négocier. Ça, c'est carrément une formation. Hein. Négocier un contrat d'édition, c'est vraiment une formation à avoir. Donc, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, avec l'expérience. Voilà. Pendant longtemps, j'ai utilisé les blogs. J'avais d'abord un blog sur... c'était d'abord Overblog, puis WordPress aussi, pour les dessins de presse. J'ai fait beaucoup de dessins de presse sur WordPress. Puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. J'ai dû vraiment mettre un peu en pause tout ce qui est publication sur les blogs, pour m'occuper un peu plus des réseaux sociaux. Mais même les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suis tellement occupé avec mes projets. C'est très chronophage, hein, quand on fait un projet de bande dessinée, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, et en même temps, je dois faire... Parce qu'une vie d'auteur, c'est pas seulement que de créer, c'est pas seulement que de dessiner, il y a aussi l'intendance. Hein. L'intendance, c'est tout ce qui est courrier, à répondre, les projets en cours, répondre à l'administration, faire ses charges, programmer ces choses, tout ça, ça prend aussi du temps et de l'attention. Et puis, le moment aussi de création a besoin aussi d'un temps spécifique, de continuité, donc il faut aussi... oui.
Est-ce que vous pensez retourner au Tchad un jour?
Je suis rentré au Tchad en juin, là.
En juin. Ça vous a fait quoi?
Ah oui, ça a été un choc. Un choc après 19 ans. C'est un grand choc. Le pays a beaucoup changé. J'étais complètement perdu déjà. Hein. Dans la capitale, je n'ai rien reconnu. J'étais littéralement perdu. Il faisait très chaud, très 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 chaud que d'habitude. sûrement le réchauffement, parce qu'il faisait, au moment où j'étais, ils m'ont dit que voilà, c'était encore mieux que entre mars et avril, qu'il faisait encore excessivement chaud. Donc j'ai été vraiment choqué par ça. Et puis la densité aussi de la circulation, ça c'est quelque chose aussi que quand j'étais là-bas, c'était pas pareil. Il y avait beaucoup de motos, beaucoup de... Donc j'étais un peu angoissé. Ça c'était... j'avais vraiment peur quoi, parce que moi j'étais dans la voiture certes, mais j'avais peur qu'on écrase dans chaque seconde une personne. Ça allait dans tous les sens. Sinon, ça m'avait fait du bien de retrouver la famille, mes petits frères et sœurs, de revoir la maison familiale. Tout ça, ça m'avait fait du bien. Et puis d'aller aussi défendre Djaraban au Tchad. Voilà. En juin, c'est-à-dire c'était publié en janvier. En juin, j'ai été là-bas pour signer donc, ça, et parler de ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ouais, beaucoup d'émotions aussi, parce que ça faisait ouais, beaucoup. J'ai mon petit frère et soeur, j'ai mon petit frère qui est à Paris, j'ai une grande soeur qui est en Allemagne, donc les deux je vois de temps en temps, mais mes parents sont décédés en 2012, donc non, c'est en rentrant que j'ai pu voir leur tombe en juin l'année dernière, donc non. J'ai pu quand même les voir avant qu'ils ne décèdent au Cameroun, donc c'était ma seule consolation, mais sinon non, je n'ai plus de parents, ni papa, ni maman, donc voilà. Mais j'ai quand même encore des petits frères et sœurs, certains qui sont encore très petits, qui sont restés au Tchad pour leurs études, et les autres qui travaille, un autre petit frère qui travaille à Paris comme informaticien, une grande sœur qui vit en Allemagne depuis longtemps aussi.
De quoi
êtes-vous
fier?
De quoi êtes-vous fier? Je suis fier.
Fierté.
Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir?
Cette réussite.
Voilà, il a été votre grande réussite.
Ah. Non, mais bon, je pense que c'est de continuer à dessiner. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est de continuer à dessiner. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer. Il est quelle heure?
Alors, moi, j'en avais juste une dernière, mais j'attendais que vous en ayez. Qu'est-ce qui a expliqué que vous avez pu rentrer au Tchad cet été, pas par exemple l'été d'avant, ou etc.
Ah oui.
Qu'est-ce qui a changé en fait?
Ce qui a changé, c'est que j'ai été invité par l'Institut français du Tchad et j'avais la possibilité aussi de rentrer avec mon statut, mon nouveau statut. J'ai la nationalité tout simplement. Et que j'étais invité par l'Institut français pour parler de Djaraban qui était donc j'ai été pris en charge par. C'était beaucoup plus sécurisant pour moi, donc c'est dans ces cadres-là que je suis rentré.
Vous pourriez y retourner donc maintenant?
Oui, je pourrais retourner, mais pour moi, franchement, la situation reste quand même encore très... ce que j'ai vu là, non.
Non, ok.
ce que j'ai vu, je peux retourner, mais de ce que j'ai vu, franchement... en fait, je suis rentré au Tchad avec l'espoir de me dire que ça allait me faire un très très grand bien. Pendant ces quelques temps de séjour, une dizaine de jours, en me disant que ça allait me faire beaucoup de bien, ça ne m'a pas fait vraiment beaucoup de bien. Oui, ça, j'ai été vraiment secoué, quoi. Voilà. Et donc ça a été très difficile au niveau, pas au niveau de la famille, hein, mais des mêmes violences que je voyais avant de partir, en fait. C'est-à-dire des militaires dans les rues toujours ces militaires avec des visages d'enfants dans des treillis avec des visages d'enfants, quoi. Tout ça, toute cette violence-là est restée pareille, en fait. Ça n'a pas vraiment bougé. je peux retourner au Tchad, mais pas rester en N'Djamena. Non. Surtout pas en N'Djamena. Il faut que je descende en N'Djamena, que je sorte de N'Djamena, j'aille vraiment ailleurs, mais pas en N'Djamena. Ça, c'est l'impression que ça m'a fait pour ces retours-là.
Attention, attention. Installez-vous confortablement dans vos sièges. Bienvenue à bord du vaisseau Super. Hyper booster activé. Mode radio enclenché. Radio Super, la radio du futur.